vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 18. Trop tard. Chers amis, bonjour. Chaque jour, c'est la journée de quelque chose. La journée des mamans et des mères pétainistes, la journée des animaux de compagnie, la journée des secrétaires, la journée du cœur, la journée des pieds beaux, la journée de par Jupiter, et aujourd'hui, c'est la journée des belles phrases. Des belles phrases pas trop longues. Alors, je vous dis de suite son nom, parce que vous l'avez bien connu, c'est Fontenelle. C'est pas Fontanelle, hein, il est très sympa. Non, c'est Fontenelle, le philosophe qui faisait de la concurrence à Diderot et qui se moquait de tout le monde, et cela pendant 100 ans, puisqu'il est mort centenaire. Alors, on aurait pu nommer cet épisode même en 100 ans, puisqu'on n'aura pas le temps, et je vois qu'à vue de nez, il est 5 heures, la publicité pour le déodorant, vous savez, car même en 100 ans sous le bras, on ne peut rien faire si ça pue un peu. Alors, Fontenelle, si vous me demandez de quel siècle il était, je dois répondre, il fut un siècle. Fontenelle, c'est vraiment quelqu'un de parfait dans notre émission, parce qu'il n'est pas ce qu'il est. Il est académicien, il participe à la querelle des anciens et des modernes, c'est un scientifique, c'est un grand novateur littéraire, il a donc vécu 100 ans, alors qu'à sa naissance, ses poumons ne fonctionnaient pas et on a pensé qu'il allait mourir. Alors pour ceux qui veulent savoir qui il a bien connu, il faut le lire bien sûr. Ou alors il y a un film qui est très chouette, c'est un téléfilm, Un cœur oublié de Philippe Monnier avec Michel Serrault. Et je l'ai vu hier soir, on le trouve sur Internet et tout, mais c'est très très chouette comme film. C'est rare que les films qui sont des biographies comme ça de grands auteurs, ce soit pas trop du genre à montrer aux élèves au lycée, faites-moi 4 pages ensuite, non pas du tout. Et alors, il faut savoir que de Fontenelle, son talent, c'était de dire du bien des autres philosophes en ayant le mérite d'éclaircir et donc de faire comprendre les écrits obscurs de ses contemporains, au lieu, comme ici, ce qu'on fait toujours, au lieu d'en dire du mal. Hein, il les flattait. Et tout cela pour faire de l'esprit par amour de la langue française. Comme nous, par amour de la langue française. Comme nous. Cette magnifique langue française où l'on peut résumer notre appréhension du temps qui passe en deux mots, trop tard. Alors, autour de la table, tous des proustiens hein, qui peuvent lire 900 pages en 3 semaines et se plonger dans un pléiade sans avoir peur. Anatole Coisard, qui est médecin sans patient. Claire Pedotti, qui est mythologue. Tlaloc Linder, qui lui est patient sans médecin. Et David Gondard, qui est poète sur le Pô, je précise que vous êtes de Turin.
Merci.
Magnifique fleuve. Alors,
à sec.
À sec, oui, mais le Pô manque de Pô. Le Pô ne le manque à part. Parce que ici, parmi mes invités, première question, qui n'a pas lu La recherche du temps perdu en entier? Soyez honnête, soyez malhonnête, enfin, comme vous voulez, mais... Qui n'a pas lu La recherche du temps perdu en entier?
Ça compte si on l'a lu dans le désordre. Hein.
On peut l'avoir lu dans le désordre. Ah, ça c'est... Alors, formidable, Claire, parce que ça c'est exactement ça.
Et moi, je l'ai lu en croyant qu'il était hétérosexuel parce que j'avais 17 ans et que personne ne me disait rien.
Oh,
mais est-ce que ça change quelque chose de savoir que Proust était homosexuel ou qu'il avait des accointances ou...
Ben, que je me suis senti quand même parfaitement grotesque quand petit à petit, voilà. Quoi.
Et après, tu as écrit un livre qui s'appelle Sper.
Mais il y a un grand écrivain français, ou plutôt universitaire français, qui s'appelle Kolb, qui a publié toute la correspondance de Proust pendant 20 ans, sur 20 ans, sans jamais mentionner une seule fois qu'il était homosexuel. C'est quand même assez fort. C'est pas le sujet.
Un spécialiste des ours et du canard, je crois, parce que Colbert...
Ah oui.
Orbert, en allemand, veut dire ours, et canard Colbert, quoi.
Voilà. Bon, alors, David, est-ce que vous avez lu, vous,
le qui Colbert, êtes
prof de philosophie et de poésie, et sérieusement, dans un métier formidable qui est celui de transmettre son savoir, sa culture, sa passion à des étudiants, est-ce que vous avez lu Proust en entier?
Alors, j'ai lu Proust, forcément sur le pot.
La recherche du temps perdu.
Oui,
parce qu'il y a d'autres choses encore de Proust, un petit peu. Ce tout petit livre, là, dans la
Pastiche,
collection.
Attends, comment ça s'appelle?
Le jour du... Pastiche. Voilà, on va retrouver après le titre. Mmh. Oui. Mais donc, David, je vous ai coupé.
Vous avez lu... vous m'avez coupé.
Oui.
Donc, je disais, je l'ai lu, bien entendu. Sur le pot, puisque c'est le lieu des lectures.
Oui.
Tout en mangeant des coquillages de pâtisserie.
D'accord.
Ayant fini la boîte et n'ayant pas fini le livre, je me suis arrêté là.
Donc, ça fait, en gros, vous n'avez pas... C'est pas votre genre, comme
je
disait...
Je l'ai entamé.
Vous l'avez entamé, d'accord. Et vous avez remarqué, chers auditeurs, qu'on a réussi à ne pas placer le nom de cette petite pâtisserie qu'on cite toujours quand on parle de Proust. Mais,
ah oui, les Twix.
Oui, longtemps, je me suis
dire,
oui, de bonheur.
Oui, oui.
Le schneck, tu veux dire.
Proust aimait les schnecks.
Donc,
non, justement.
Donc, c'est le ou là?
Donc,
c'est comme, c'est comme.
Est-ce qu'il faut beaucoup de temps
le knack
pour faire
et
court?
La knack.
Voilà. Donc moi, pour Fontenelle, qui disait du bien des autres philosophes, je voudrais rappeler Paul Kobisch, qui dans son aphorisme 253 dit: il est du plus haut intérêt d'étudier avec soin les sujets dont Nietzsche ne parle que peu, voire jamais. Ouais.
Oui.
Alors, voilà. Est-ce que c'est une façon de dire du mal de Nietzsche? Je ne sais pas.
Mais, moi, voilà. Je pense que oui.
Voilà. Il y a des écrivains qui passent leur temps, ou des critiques, à ne faire que de dire du mal.
Ou alors de l'ellipse.
De l'ellipse.
C'est elliptique quand même. Il est de plus haut intérêt d'étudier avec soin les sujets dont Nietzsche ne parle que peu, voire jamais. Il n'y a pas la liste.
Oui. Mais j'ai peut-être une...
Ben, c'est un aphorisme. Hein, donc,
Dans l'art poétique, quand même, il y a des critiques qui sont assez acerbes et tout. Et en même temps, il est très flatteur. Hein, donc...
Il y a aussi la fausse flatterie, parce que c'est un véritable mythe de penser que quand on flatte, on dit du bien. Non, non.
Oui, non, mais parfois on flatte de façon tout à fait, comment dire, pour gagner des sous, pour flatter son mécène. Le poète Stas, qui était un collègue de Terence, lui, il ne faisait que de dire du bien des gens parce qu'il était sponsorisé par eux, ses mécènes. Voilà. Mais Boileau, lui, il est quand même plus astucieux. Hein, je disais, l'art poétique, c'est il lance des piques un petit peu méchantes comme ça, mais c'est un peu planqué dans des vers et tout. C'est assez intéressant.
À propos de vers, oui. On parlait de Nietzsche, ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Mais en fait, tout est dans la vacuité.
Ah bon ?
En deux mots. C'est tout ce que j'ai à dire.
Oui, mais justement, c'est ça l'intérêt de cet épisode, vous l'avez bien connu, c'est de se dire, on fait une émission de radio qui dure une vingtaine de minutes, qui pourrait se résumer en deux mots, trois mots. Mais
oui, vacuité.
Donc David, comment faire court? D'abord, il faut beaucoup de temps pour faire court quand on écrit une poésie. Hein. Mais quelle est je ne veux pas dire quelle est la règle, puisque la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, mais comment faire court?
Le temps.
Les élèves.
Trop tard.
Trop tard, bah oui, justement.
Mais Tommy disait, il vaut mieux jamais que trop tard.
Oui, et il vaut mieux moutarde que jamais, comme disait Alélor, excellente moutarde alsacienne.
C'est pas un fleuve, le Tarn aussi? Ah oui. Non, c'est le Tarn.
Le Tarn et Garonne.
Du Tarn.
Alors, Paul Kobisch disait aussi, si je n'ai jamais rien creusé à de grande profondeur, c'est que j'ai toujours eu peur de perdre mon temps. Mais voilà.
Alors, Paul Kobisch, l'Alsacien.
Oui, 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 le situationniste qui a écrit les choses les plus brillantes sur mai 68 à Strasbourg. Mais
voilà. Qui était journaliste à FR3.
Qui était journaliste à FR3.
Ouais, ouais. Mon cher collègue, on partageait notre bureau. Ouais. Voilà, je n'avais pas percuté tout de suite. Ouais.
Et qui a été probablement éjecté par Debord. Hein. Parce que ça scissionnait pas mal quand même chez les situations.
Alors, passer par-dessus de bord.
Avec Proust, on change de bord, oui, c'est sûr.
Les copains d'abord.
Voilà.
Voilà. Voilà. Donc, chers auditeurs, vous l'avez bien connu, vous avez compris que cet épisode consiste à parler d'un sujet en ne disant rien, puisqu'on essaye de tirer à la ligne une émission qui dure 20 minutes avec simplement...
Fontenelle. Oui. Ah, il fallait pas le dire.
Et deux mots, si, on l'a dit. Non, mais c'est trop tard. Ouais. On est trop tard, donc on ne peut plus rien dire.
Trop tard, et puis je rejoindrai notre ami sur la vacuité. Oui. Il ne nous reste plus qu'à aller boire un verre. Hein.
Donc, comme l'a dit le mime Marceau...
Voilà. Non, ça, votre radio fonctionne toujours. Hein. C'était le mime Marceau qui était un Strasbourgeois, hein, qui était en train de s'exprimer. Non,
je suis médium et dans la vacuité, je perçois très bien le mime Marceau.
Voilà. Donc, revenons-en à nos poésies. À nous dire. Quand on lit, par exemple, au hasard, mais parce que j'adore, les voyelles de Rimbaud.
Ouais.
Il faut 25 secondes, 30 secondes pour le lire en entier, ou peut-être un peu plus, une minute, quand on prend son temps. Est-ce qu'il l'a écrit, lui, dans un trait de génie en un quart d'heure, 20 minutes, ou est-ce qu'il a mis 3 ans revenant dessus et tout? Je demande ça au prof de poésie.
Eh bien, vous savez bien, c'est en sciant que Léonard de Vinci.
Oui. Il semblait que...
Il ne faut pas confondre le trait de génie avec le trait de génisse. Sinon, on boit du lait. Hein.
Oui, et on mange des beefsteaks.
Pour moi, il l'a écrit très vite. Hein. Oui. S'il n'avait franchement pas le temps... entre le moment où il a écrit ce poème et celui où il est allé en Afrique.
Tuité.
Est-ce qu'il avait conscience qu'il allait faire quelque chose qui allait embêter tous les élèves du lycée pendant des générations, mais qui en même temps serait considéré comme un truc formidablement génial?
Excusez-moi, cher Antoine. Ambroise, pardon.
Oui, non, mais c'est pas...
je veux dire, moi, c'est pas sur les voyelles que j'ai le plus peiné. Je me rappelle de certains poèmes de Victor Hugo. Là, ça, c'était...
Demain, des lobes à l'heure où blanchit la campagne.
Ah, on parlait des consonnes, je veux dire.
Voilà, les consonnes.
Vendre des armes en Éthiopie, ça embête pas les élèves d'habitude. Hein.
Non.
Non. Non, c'est... On s'est dit, je sais qu'il a arrêté.
Non, moi, c'est la tentation de Saint-Antoine. Quatre versions différentes, justement. Hein, on en revient sur notre
sujet.
On
parle d'un...
Flaubert a commencé à écrire à 18 ans parce qu'il est tombé en extase devant un tableau. Il a fait une première version. Ses copains lui ont dit, c'est pas bon. Il en a fait une deuxième, une troisième et finalement une quatrième.
Flaubert était du même clan que Colbert, hein, le clan des ours.
Ah bon,
oui.
À cause de la rime.
Bernard en français, du vieil alémanique.
Alors, si je peux me permettre une petite intervention,
du Bernard l'ermite.
Un aphorisme de Paul Kobisch sur l'émission qui est en train de se tourner, c'est l'aphorisme 371. Je tiens à préciser qu'il n'est pas plus vraiment en état. Enfin, Paul, si tu nous écoutes, j'espère que tu comprends ce que je dis. Il est dans une maison, un EHPAD à Mulhouse. Mais il dit en 371, pour ce qui concerne la télévision, la qualité des programmes diminue en raison inverse de l'amélioration de celle de leur vecteur. Cette évolution recouvre exactement le mouvement du triomphe de la technique. Et je remercie au passage le technicien, que je ne vois plus, qui vide progressivement le réel, Thomas. Cette évolution recouvre exactement le mouvement du triomphe de la technique qui vide progressivement le réel de toute sa substance.
Alors là, c'est vraiment une première dans cette émission. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de sérieux. De sérieux.
Surtout que les vecteurs, ce n'est pas de la littérature, hein, c'est des maths.
Oui, alors, les maths et la littérature...
Littérature, comme disait François Le Lyonnais.
Ou Pascal, ou tous les autres, c'est complètement lié. Encore une fois, je pose la question à David. Est-ce que, par exemple, vous fréquentez l'Oulipo? Ce sont des mathématiciens.
Oui.
Hein, alors, c'est de la littérature, mais c'est des maths. Hein.
Revenons en arrière. Ça, pour le coup, c'est du contemporain. Revenons à l'Antiquité. La poésie est là pour retenir l'astronomie et la mécanique. Donc la poésie est mathématique, pour mémoriser d'abord. Ensuite, elle devient complètement mathématique avec les Oulipiens, les fractales, etc.
Et à propos
C'est-à-dire que la poésie n'est pas gratuite juste pour la beauté des choses, mais elle a une fonction.
Elle est mémnotechnique. Hein.
Alors, le poète Tito Ballesteros disait « La poésie, ça vaut rien. Prends tes poèmes et va essayer de les vendre au marché. Tu ne gagneras rien. » Donc la poésie est gratuite, mais elle n'est pas dans un acte gratuit.
Mais par exemple, ce poème célèbre « Mais où est donc Ornicar ?» Très court.
Oui, dans la conjonction de coordination.
Mais voilà, qui permet aux élèves de se souvenir...
Se figurer quel visage effaré pouvait bien avoir Ornicar.
Je pense que la poésie...
Je vois au moment où tu prononces ce mot, je vois Ornicar, c'est affreux.
Où il était caché, effectivement, et un certain respect pour son anonymat. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne voulais pas savoir où était Ornicar.
Mais tu lui vois des yeux comment, Ornicar ?
Fatigué.
Moi, je pense que la poésie peut payer, parce qu'il y a l'Oulipo, certes, et il y a l'Oulipo, de Joe Starr. Or, NTM, ça paye.
Oui. Alors, il y a une autre phrase de Ménotechnique.
Il y avait des grands rhétoriqueurs aussi au XVIe siècle qui fonctionnaient. Moi, je dirais que la poésie étant musicale, la musique étant aussi une mathématique, on ne voit pas la contradiction.
Non, mais de toute
façon... Comme disait Jean-Sébastien.
C'est pour ça que parfois la poésie est très difficile à décrypter parce qu'il y a des codes donc mathématiques permettent de la lire. Je sais pas. Bon, René Char, c'est différent parce qu'il il raconte une histoire quand même quelque part. Il y a d'autres poèmes comme les tableaux abstraits, c'est compliqué à décrypter.
Oui, mais Paul Celan. Il faut décrypter, mais ensuite, il y a une histoire.
Il n'est jamais trop tard pour être selon.
Alors, la phrase mnénotechnique qui me revient, c'est « Il vexe le commun des mortels ». Ça vous dit quelque chose ?
Non.
Eh bien, voilà. Alors, c'est une phrase mnénotechnique pour retenir les chiffres romains.
Ah, oh, ouais.
Voilà. Donc, « Il vexe ». Le commun des mortels, donc le I, c'est 1, le V, c'est 5, le X, c'est 10, le L, c'est 50, le C, c'est 100, le D, c'est 500, et le M, de mortel, c'est 1000. Voilà. Et alors, bon, vous savez, les chiffres romains, hein, placés à droite, l'unité est ajoutée, et placés à gauche, l'unité est soustraite.
Placé à gauche, ça fait 49,3.
Voilà. Non. Donc, c'est très intéressant parce que il y a des gens, quand on se promène dans les cimetières, ils mettent des choses en chiffres romains. Et donc, il faut calculer. C'est toujours comme ça. Ah oui, le I avant le V, donc c'est pas 5, c'est 4. Et tout. Donc, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est... Et donc, en fait, c'est une façon assez poétique d'exprimer les choses.
Comme dirait M.C. Solar dans Sequel, j'aurais aimé être Lacan. Or, Lacan, grand poète devant l'éternel, qui mêlait si bien la science physique à la psychanalyse.
Oui, Roland Barthes, il vient derrière. Mais d'ailleurs, Lacan...
C'est un peu comme quand tu interprètes de l'allemand. C'est-à-dire, quand tu es dans ta cabine d'interprète et que tu attends le verbe...
Qui est à la fin de la phrase.
Et non pas au commencement. Et pourtant, il est dit au commencement.
J'aurais été le verbe.
Oui, et bien c'est faux. Donc Dieu n'existe pas.
En allemand.
Où les Allemands sont divins.
Oui, parce que Dieu est à la fin.
Non, parce que Gott mit uns.
Ah oui, d'accord.
Bon. Bof.
Oui, bon. Voilà. Mais alors, donc. Je reviens.
Non, mais Uns mit Gott, ça ne marche pas. Hein.
Non. Et Totenkopf non plus. Mais alors, j'en reviens à ma question initiale. Non, mais franchement, est-ce que vous prenez votre pied à lire Proust, à lire La recherche du temps perdu ? Je répète souvent ça. C'est un peu comme une addiction, quoi. Vous commencez une première fois, la deuxième fois, troisième fois, la quatrième fois, et la cinquième fois où vous êtes shooté à la recherche aux jeunes filles en fleurs. Vous n'en pouvez plus, vous lisez jusqu'à 5 heures du matin. Chers auditeurs, lisez La recherche du temps perdu de Proust. C'est génialissime. C'est d'une intelligence. Alors, bien sûr, c'est un peu plus long que Trop tard. Hein. Il dit Trop tard, mais.
Non, moi, je l'ai lu trop
tôt. Pages.
Je redis, je l'ai lu à 16 ans parce que j'étais amoureux d'une fille à qui je n'osais pas parler. Et mon copain Philippe Leguet, qui est devenu un grand cinéaste, je vous incite à aller voir bientôt son film sur Annette Zeman, qui est cette nancéenne qui est tombée amoureuse d'un surréaliste à Paris pendant l'occupation et qui a été dénoncée par son beau-père et qui est morte à Auschwitz. Ça, c'est le prochain film de Philippe Luguet. Mais quand j'avais 16 ans, Philippe, me voyant complètement dévasté d'amour pour Aude, je lui dis aujourd'hui, hein, Aude, si tu es là, tu dois être comme moi, vieille et moche. Mais bon. Et donc,
m'a dit, Anatole ne manque pas de faire des petits
la recherche.
Trucs perdus.
Bonjour papa, bonjour maman.
Voilà. Lis la recherche. Et donc, je l'ai lu
nous avons
en
téléphone.
Regardant le bout de la plage de 5A, parce qu'on essayait de faire de moi voilà. Et j'étais à la plage, j'étais sous le Grand Hôtel, j'avais l'impression que Proust allait sortir dans un instant. J'ai lu ça en chialant.
Oui.
Mais aujourd'hui, j'aurais, voilà, aujourd'hui.
En fin de compte, pour lire Proust, il faut se faire à l'apnée. Une fois qu'on a compris que c'était un roman d'asthmatique...
Mais non, alors bon, moi je vais rétablir, je prends juste une anecdote.
J'ai une bronchite asthmatiforme et je fais de l'apnée du sommeil. Ouais. J'ai juste lu la critique de Proust. Je n'ai pas lu Proust lui-même.
Ah, mais non. Bah, c'est toujours bien
quand
de
même.
Commencer ouais. par Proust. Mais Proust, il est dans son hôtel.
Non, mais
il descend.
C'était pas
il regarde sur la plage les jeunes filles qui gambadent.
Non, le groom dans l'ascenseur. Le groom à côté de l'ascenseur.
Ah, ça, c'est autre chose encore. Oui, non. Mais il regarde. Ça, c'est dans sa biographie.
Et
moi, je parle du texte. Il dit qu'il voit ces jeunes filles. Elles sont magnifiques. Il en repère une. Il dit. Tombe immédiatement amoureux d'elle, je pourrais mourir pour elle, c'est la plus belle et tout. Le lendemain, il revient, il les regarde, il la reconnaît même pas. Non, mais c'est quand même assez formidable, c'est ce qui nous arrive tous les jours un petit peu dans notre vie et dans le tram aussi, oui, peut-être. Drôle de tram.
Entre deux amnésies, j'oublie tout, hein, personnellement.
Voilà. Bien, eh bien, chers amis auditeurs de Vous l'avez bien connu, ça va être la fin de l'épisode. Et vous savez ce que l'on dit avant de mourir ?
Shakespeare !
Non. Fontenelle, je vais vous citer cette phrase. Comment ça va ? Ça va mal. Ça s'en va. C'était l'épisode numéro 18 de « Vous l'avez bien connu ». Trop tard. Avec aujourd'hui Anatole Coisard, médecin sans patient, Claire Pedotti, mythologue, Tlalak Linder, patient sans médecin et David Gondard, poète sur le pot de Turin. À la technique Thomas Marinelli, on se retrouve tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. And my name is Orson Welles. Non. Ambroise Perrin.